喵
喵
喵。
我是可爱猫咪的
傻肉
猫
喵喵喵喵喵喵。
Le bar à...
Mouah.
Le bar à quoi ?
Le bar à chat.
Le talk chat de Radio Centrafrique.
C'est tout à fait chat.
Mouah.
Le bar à chat.
Le bar à chat. Nouvelle émission féline de Radio Centrafrique.
Mouah.
Cha-cha-cha.
Qu'est-ce qu'on dit ?
Le bar à chat. L'émission chat, heureuse
de Radio Centrafrique.
Mouah.
Bon, alors les filles, qui a essayé le Blotox depuis la dernière fois?
Ah, moi, j'ai carrément pas osé, quoi. Ça donnait pas trop envie.
Bah, moi, j'ai peur de rien, tu sais. Donc, j'ai essayé.
Waouh.
Ouais.
Quel courage.
Ouais. C'est pas terrible, hein. Non, c'est pas terrible. Parce que depuis, t'as vu, en fait, j'ai les cheveux raides et puis j'ai les cheveux gras, quoi.
J'osais pas t'en parler, c'est ça, en fait.
Voilà. Mais ils étaient un peu dressés aussi. Hein.
Ils expliquent pas sur la boîte qu'en option, t'as les cheveux gras. Ouais. Donc, bon, moi, je les conseille, hein, forcément. Mais bon.
Ah, zut alors. C'est dommage. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette seconde édition du Bar à Chat, l'émission féline de Radio Centrafrique. Au micro, c'est Zézette et Pouzix, et j'ai le plaisir d'accueillir autour de cette table Chaussette et Félix
miaou.
Potin.
Miaou, miaou.
Bonjour les filles.
Ciao.
Miaou.
Comment ça va?
Miaou. Pas plus mal.
Ouais, très bien, ouais.
Allez, je commence avec Chaussette. De quoi vas-tu nous parler aujourd'hui?
Des animaux, et plus particulièrement des noms d'animaux donnés aux humains, enfin... Ça va plutôt être sur la fin, tout un cheminement.
Wow.
C'est la surprise.
On a hâte de t'entendre. Et toi, Félix, quel est ton sujet?
Mais aujourd'hui, moi, je vais vous parler de voix. De voix et de voix.
De voix V-O-I-X, V-O-I-E?
Eh bien, les deux.
Les deux.
Voilà.
Super. Il y aura également une rubrique ciné qui sera riche dans cette émission, puisque nous parlerons aussi d'un documentaire sorti la semaine dernière dans les cinémas. Un véritable thriller social qui s'appelle « Merci, patron ». Et dans la foulée, on parlera convergence des luttes et grève générale. Ensuite, il y aura des lolos au micro avec un sujet spécial sur le soutien-gorge. Et même une rubrique astro pour tout comprendre sur l'influence des astres.
Chouette.
Vous voyez, on parle de tout dans le bar à chat. De notre quotidien, de ce qui nous touche, de ce qui nous fait rire et de ce qui nous fait bouillir. Mais surtout, on se fait plaisir. On commence donc avec Félix Potin pour des voix qui ouvrent des voix. Et ça va démarrer avec un son d'Asaf Avidam, One Day Reckoning Song.
My heart is dry. I don't laugh and I don't cry. I don't think about you all the time. But when I do, wonder why. You had to go out of my door and leave just like you did before. I know I said that I was sure, but rich men can't imagine poor. One day, baby, we'll be old. Oh baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told. So one day, baby, we'll be old. Oh baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told. Little me and little you kept doing all the things they do. They never really think it through, like I can never think it true. Here I go again, the blame, the guilt, the pain, the hurt, the shame, the founding fathers of our plane. That's stuck in heavy clouds of rain. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. And think of all the stories that we could have told. I said, one day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. And think of all the stories that we could have told. I said, one day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. So, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. So, baby, we'll be old. So, baby, we'll be old. Baby, we'll be old. Baby, little pretty baby. Little baby, pretty little baby, baby, baby. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. Think of all the stories that we could have told.
La voix est une trace. Elle nous caractérise autant que nos traits. Elle évolue dans le temps, mue avec l'âge, se réchauffe avec les expériences ou change de ton selon nos émotions. Bref, vous l'aurez compris, aujourd'hui j'ai envie de partager avec vous des voix.
No one knows where we are. It's a long time since I drank champagne. The ocean's blue as your eyes. I'm gonna take it with me when I go. Now way back when we lived in Coney Island. There ain't no good thing ever dies. I'm gonna take it with me when I go.
Si la voix de Tom Waits dans cet extrait de Katie With Me nous réchauffe, voire réveille de doux papillons dans nos ventres, que dire de celle-ci ? Comme j'ai pitié de vos oreilles, l'extrait sonore s'arrête là. J'aimerais vous parler de cette voix, celle de Narcissa Florence Foster, née en 1868 en Pennsylvanie. Comme beaucoup d'enfants de bonne famille, elle reçoit une initiation à la musique. Ado, elle rêve de partir l'étudier dans le monde, mais son riche père refuse. Rebelle, elle s'enfuit à Philadelphie avec son amant et futur mari, le docteur Frank Thornton Jenkins, dont elle divorce en 1902. Ça, c'est fait. Puis, elle enseigne le piano, comme la compositrice-interprète Mireille l'a fait chez nous, dans son petit conservatoire, avec Amour et Passion. Couché dans le foin par Mireille.
Couché dans le foin, avec le soleil pour témoin, un petit oiseau qui chante au loin. On se fait des aveux et des grands serments et des vœux.
Revenons à Florence Foster Jenkins. En 1909, son père meurt, lui léguant assez de fortune pour qu'elle se lance dans son rêve, devenir cantatrice. Elle s'implique financièrement et artistiquement dans la vie musicale de Philadelphie. Voilà une nouvelle cantatrice récitaliste soprano à la drôle de réputation. Elle n'a peur de rien, s'attaque à de classiques airs d'opéra de Mozart, Verdi, Strauss, Brahms. Rien d'incroyable, si ce n'est son brin de voix. Allez, encore un petit coup. Si, si, je suis sûre que vous en mourrez d'envie. Ça me rappelle les charmantes vieilles dames qui s'obstinent à pousser le cantique en soprano et ne remarquent pas les oreilles sanguinolentes des ouailles. Ouch ! Bref, Flo-Flo, incapable de placer sa voix, ignorant ce qu'est le ton, n'a aucun sens du rythme et sûrement pas beaucoup de vrais amis. Cette femme, en dépit de tout, accomplit son rêve, elle chante et on l'écoute. En dehors de chanter juste, elle a tout ce qu'il faut. Beaucoup de sous, des costumes de scène incroyables avec du lamé ici, des ailes en plumes par là. Elle a un musicien qui lui écrit des pièces, un agent qui l'emmène jusqu'à New York. Mais elle chante exclusivement devant un auditoire qu'elle a choisi soigneusement. Florence est persuadée qu'elle détient un immense talent et que les rires quand elle chante sont ceux des autres cantatrices malades de jalousie. Bonjour l'atmosphère.
Atmosphère, est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère ?
Quand elle a 60 ans, sa mère meurt, libérant ainsi encore plus de capitaux pour faire encore plus de spectacles. Elle est vraiment dans son truc. Un jour, elle découvre au cours d'un accident de taxi qu'elle peut chanter, comme elle le dit, un fa encore plus haut qu'avant. Et de joie récompense le chauffeur. C'est en 1944 que les choses vont se gâter. Et oui, à 76 ans, elle accepte de se produire devant un large public au Carnegie Hall, une grande salle de concert new-yorkaise. De célèbres musiciens, chanteurs, compositeurs sont conviés, ainsi que la presse. Tout le monde veut la voir, on se bouscule. Aïe ! Florence meurt un mois plus tard. Certains affirment que c'est du chagrin à cause des méchancetés s'étalant dans la presse après son spectacle. Quoi qu'il en soit, cette femme a accompli et a vécu dans la joie son rêve de cantatrice. Elle laisse derrière elle quelques 78 tours et une foultitude d'artistes inspirés, au théâtre, mais aussi en musique. Voici la chanson « Hommage, pourrait-on dire, de Juliette, Casserole et faussets ».
Quand autrefois dans les salons, la jeune fille de la maison venait chanter en rougissant, les invités serraient les dents, regrettant que rien ne prohibe la loluliléo de Lib à ses gosiers entreprenants. Et d'une inconscience admirable enchaîne les notes malheureuses et vocalise défectueux. Rendons hommage aux casseroles qui chantent à tout hasard, jamais vraiment un bécard, jamais vraiment un bémol. Aux casseroles, aux fossés, ouvrez la chasse aux canards et rassassinez Mozart dans l'environ et le bizarre, dans la joie et l'à peu près. Casserole au fossé. On a connu des parisiennes qui chantaient résolument faux. Pourtant quand elles étaient sur scène, le monde entier braillait bravo. Une milliardaire américaine voulut piauler de l'opéra, quelques migraines et puis un disque chez RCA. Comme quoi le gène de la justesse n'est pas celui de l'ambition. De chanter faux, je le confesse, j'ai la secrète tentation. Rendons hommage aux casseroles qui chantent à tout hasard, jamais vraiment un bécard, jamais vraiment un bémol. Aux casseroles, aux fossés, ouvrez la chasse aux canards et rassassinez Mozart dans l'environ et le bizarre, dans la joie et chantaient comme des guimbardes, comme Assurance Tourix le barde, qui avait une voix comme un outrage, une voix de mule, une voix de garage. Chantez et prenez bien vos aises, avec les dons, les la, les dièses, affranchis de toute harmonie. Si vous saviez comme je vous envie, chantez, chantons, c'est important, sans complexer n'importe comment. Ça sera pas pire et même plus beau que ce qu'on entend à la radio parfois. Rendons hommage aux casseroles qui chantent à tout hasard, jamais vraiment ta bécard, jamais vraiment ta bémol. Aux casseroles enfoncées, ouvrez la chasse aux canards et assassinez vos ailes dans l'environ et le bizarre, dans la joie et la retrait. Aux casseroles enfoncées.
Une adaptation du destin de Florence Foster Jenkins est née en 2015 dans un film franco-tchéco-belge de Xavier Giannoli, dont le titre est Marguerite. Catherine Fraud incarne avec brio Marguerite Dumont, une aristocrate passionnée, persuadée de son talent, chantant très très faux devant ses amis et à qui personne n'ose dire la vérité. Son rêve est de se produire à l'opéra devant un vrai public. Elle engage donc en prof, au désespoir de son mari. Marguerite est, comme on imagine, l'original Florence, tout à fait dans son délire, ignorant avec candeur les moqueries. Cependant, Catherine Fraud instille dans son personnage une douceur et une tendresse qui lui donnent un aspect fragile. On a bien envie de la dorloter. Avec ce portrait, elle nous plonge dans un cruel dilemme. Faut-il lui dire qu'elle chante comme une casserole? Parce qu'on l'aime bien, alors faudrait lui dire quand même. Oui, mais en même temps, comme on l'aime bien, on voudrait pas lui faire de la peine. Alors, on fait quoi?
Ça va, rentrer ou sortez, monsieur, mais laissez pas la porte ouverte, c'est insupportable.
Elle a toujours chanté comme ça?
Ah non, elle a beaucoup progressé.
Je travaille toute seule, je vais à l'opéra, j'écoute de la musique, je chante au moins 4 ou 5 heures par jour, vous savez.
Vous pensez qu'elle sait pas qu'elle chante complètement faux?
Faux, mais sublimement faux.
Divinement faux.
Je vais organiser un vrai concert, Georges, devant un vrai public.
Comment ça, un vrai concert?
Je travaille depuis des années, mon chéri. Je vais trouver un vrai professeur.
Non, c'est très intéressant. C'est très personnel.
Merci.
Il ne faut pas qu'elle monte sur une vraie scène. Qu'est-ce qui va se passer quand elle va comprendre?
Mais de quoi avez-vous peur exactement?
C'est pour vous que j'ai peur, figurez-vous. Tout le temps.
Vous voulez savoir la vérité? La vérité vraie? Ce que personne n'ose vous dire.
Il n'y a que la musique qui compte pour moi. C'est ça ou devenir folle, vous m'entendez? Folle.
Comme vous l'avez compris, nous venons d'entendre la bande-annonce du film Marguerite. Finalement, c'est pas toujours facile d'être franc, et encore moins de ne pas être blessant. Mais là, quand même. Bon, pas question de vous donner de solution. À chacun de prendre des risques. Quoi que vous décidiez, je vous invite à aller voir ce film Marguerite, avec Catherine Fraud, mais aussi avec d'autres talentueux acteurs comme André Marcon dans le rôle de Georges Dumont, l'époux fuyant les prestations vocales de sa dame, et Michel Faux dans le rôle d'Atos Pezzini, un divo sur le retour et désargenté. Il y aurait encore tant de choses à dire sur ce sujet des voix qui ouvrent des voies. Mais pour conclure en musique, je vous invite à écouter un extrait d'une voix tout à fait improbable et pourtant, celle d'Inva Moula, soprano libanaise. La plupart d'entre nous la reconnaîtront sous les traits vocaux de la diva Plava Laguna, incarnée au cinéma par Maïwenn dans Le Cinquième Élément, film de Luc Besson.
Je croyais que c'était à Corinne. Bon, en tout cas, ça donne envie d'aller le voir, ce film Marguerite. Là,
je te rappelle comment je m'appelle, Félix Potin.
L'identité dévoilée.
L'identité dévoilée. Ouais, ça donne très envie de le voir, j'imagine.
Ouais, ça donne vraiment envie. En plus, signalons que Catherine Frotte vient de recevoir le César de la meilleure actrice. Ouais. Donc,
tu dis Catherine Frotte ?
Ouais, je dis Frotte.
Ouais, moi, je dis Frotte. J'ai hésité longtemps, mais bon. Je me suis dit qu'elle m'en voudrait si je l'appelais Frotte, mais comme c'est pas moi.
Frotte, mais on sait pas quoi.
Allez, on va rester dans le cinéma pour parler d'un documentaire étonnant qui vient de sortir le 24 février et sorti en salle « Merci patron ». Ce documentaire raconte une histoire vraie. C'est celle d'un couple, Jocelyne et Serge Clure, qui fabriquaient des costumes Kenzo pour le groupe LVMH à Poix du Nord, près de Valenciennes. Mais leur usine a été délocalisée en Pologne parce que, vous comprenez, la main-d'œuvre coûtait trop cher en France. De Pologne, l'usine est partie en Bulgarie et elle s'apprête maintenant à partir en Grèce. Donc, le couple Clure se retrouve au chômage. Criblés de dettes, ils risquent désormais de perdre leur maison. C'est alors que François Ruffin, fondateur du journal d'enquête sociale Fakir, frappe à leur porte. Lui, il est confiant, il va les sauver. Commence alors une histoire rocambolesque, avec des personnages hauts en couleur et des dialogues dignes d'Audiard. Du suspense, de l'émotion, de la rigolade. Je vous garantis que vous passerez un bon moment. Le meilleur dans cette affaire étant que le scénario n'était pas écrit à l'avance. C'est Bernard Arnault, le PDG de LVMH, qui l'a construit lui-même. Et c'est aussi lui qui a envoyé l'un des personnages les plus emblématiques du film, le commissaire chargé de négocier. On écoute la bande-annonce.
Elle a eu la plus grosse fortune de France sur le départ. Bernard Arnault, président du groupe LVMH, aurait demandé fin août la nationalité belge.
Ça suffit, ces gens sont des parasites.
Cet homme n'a qu'une obsession, c'est de démanteler cette entreprise.
Vous avez quand même supprimé combien, 8000 emplois ? Mm-hmm.
Vous m'avez l'air de lui en vouloir un petit peu, Bernard.
Ah bah, je lui en veux à mort parce qu'il y a plein de filles qui sont au chômage à cause de lui.
Nous, on est des pions, on a travaillé, on a été payé,
c'est tout
maintenant.
Quand les stars, elles changent,
ça n'existe plus, c'est pour lui, c'est fini.
Mais qu'est-ce qui reste de Bernard Arnault ici ?
Rien. Je regarde, c'est ça la preuve.
Comment vous faites pour vivre avec 3 euros par mois ?
On mange pas.
Pardon ?
On mange pas.
Eh bien, on va se faire vos porte-parole.
Bonjour, on aurait voulu monter à l'étage de LVMH, s'il vous plaît. Alors, approchez.
Qu'est-ce qu'il va chercher à faire, Romain Desbois ?
Prendre l'argent et pour...
le donner aux pauvres.
On va aller leur défoncer, leur âger. On va quand même pas arrêter là. Allez faire les danseuses. Merde.
Vous êtes de la part de Bernard Arnault?
Oui, oui. Je travaille chez LVMH.
Désespoir, première. Si vous ne payez pas, je fais une descente à Paris.
Vous comprenez bien qu'on ne peut pas céder à un chantage.
Ben, je n'ai plus rien à perdre. Bon.
C'est nous qu'on sera les PDG.
Allez à Bernard. Et puis raquettez bien les PDG alors.
PDG.
Ce film est une fable. Il pose clairement la question, comment rétablir un rapport de force? Ce qu'il montre, c'est que ça passe par une jonction de classe. Entre les clures de la classe populaire et entre François Ruffin, journaliste et militant de la petite bourgeoisie intellectuelle, comme il se définit lui-même. Pour faire cette jonction, il faut un pont, un lien. Dans le film, c'est la déléguée CGT, Marie-Hélène Bourlard, qui a ce rôle. C'est grâce à elle que la confiance opère et que la jonction peut se faire. Ensuite, le film montre l'obscénité de l'oligarchie. D'après Challenge, la fortune de Bernard Arnault s'est accrue de 9,27 milliards d'euros en 2015.
Incroyable.
Ça fait tellement de zéros qu'on s'y perd. Pour s'y retrouver, il faut traduire. Alors traduisons. Son revenu annuel équivaut à 463 000 années de salaire d'une ouvrière de ECCE, l'entreprise qui fabriquait les costumes Kenzo à Poix du Nord. 463 000 ans, ce sont les débuts de l'Homo erectus, le moment où l'homme commence à se redresser. C'est l'âge du feu. Donc, il faut imaginer une couturière de ECCE du groupe LVMH qui, depuis l'âge des cavernes, coud des costumes Kenzo pour égaler une année de salaire de Bernard Arnault, le PDG. Vous trouvez ça indécent? Attendez, ce n'est pas tout. Parce que le plus drôle, c'est que, à votre avis, qui est-ce qui coûte trop cher? Bernard Arnault ou les ouvrières? Gagné! Ce sont les ouvrières! Ce sont leurs emplois à elles qui partent en Pologne, puis en Bulgarie, puis en Grèce! C'est à elles, c'est à nous tous qu'il faut rogner les assurances chômage, les retraites, la sécu, pour nous rendre plus compétitifs. Et cet argument-là, on l'entend tous les jours et sans le moindre humour, à longueur de journaux et de radios. Tous les matins, France Inter nous le répète, avec Dominique Seux, salarié des Échos, et donc de Bernard Arnault. Le mérite du film, c'est aussi de mettre des visages sur cette injustice-là. De passer de la théorie aux affects, de la raison aux émotions et aux sentiments. Qui a envie de se battre contre la précarité? Pas grand monde. Alors que là, quand vous voyez le film, vous avez envie de vous battre pour toutes les Jocelyne et tous les Serge Clure. Enfin, le film montre aussi la complaisance de nos politiques. Jusqu'au sommet de l'État, avec Hollande qui cautionne l'évasion fiscale, les mensonges faits aux salariés, les méga revenus du PDG. Au cas où vous en doutiez encore.
Quand on arrive à l'usine, la gaieté nous illumine. L'idée de faire nos 8 heures nous remplit tout le bonheur.
Ah, 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 ah oui.
D'humeur égale et joyeuse, nous courons vers la pointeuse. Le temps d'enfiler nos bleus et nous voilà tous heureux. La ira, la ira, yeah.
Merci patron.
Merci patron.
Merci patron.
Merci patron.
De travailler pour vous, on est heureux comme des fous. Merci patron,
merci patron,
merci patron,
merci patron.
Ce que vous faites ici-bas, un jour Dieu vous le rendra.
Quand on pense à tout l'argent qu'au fin de mois on vous prend, nous avons tous un peu honte d'être aussi près de nos comptes.
Ah, 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 ah oui.
Tout le monde à la maison vous adore avec passion. Vous êtes notre bon ange et nous chantons vos louanges.
Like la, like la, yeah. Merci patron.
Merci patron.
Merci patron.
Merci patron.
Quel plaisir de travailler pour vous. On est heureux. Un jour Dieu vous le rendra.
Oui, c'est ça.
Mais en attendant ce jour, pour vous prouver notre amour, Nous voulons tous vous offrir un peu de notre plaisir.
Ah oui.
Nous allons changer de rôle, vous irez limer la tôle et nous nous occuperons de vos ennuis de patron. Nous serons patrons. À vous le plaisir de travailler pour nous.
Vous serez heureux comme un fou.
Nous serons patrons.
Nous serons patrons.
Ce que vous avez fait pour nous,
nous le referons pour vous.
Il est plus petit que le jardin de ma tante.
Excuse-moi, en fait, il y a une chose que j'ai pas tout à fait compris. C'est un docu-fiction, comment ça se présente ?
En fait, c'est un documentaire. On croirait un film tellement c'est surréaliste. Mais vraiment, c'est un documentaire dont tout ce qui se passe dedans est rigoureusement vrai.
D'accord.
Et alors du coup, Zézette et Pouzix, dis-nous, c'est quand qu'il sort à Saint-Taf ?
C'est quand qu'il sort à Saint-Taf ? Ben, j'en sais rien, bientôt, j'espère. En fait, il faut savoir que le film n'a pas été aidé par le CNC, pour des raisons politiques, on peut dire. On ne sait pas exactement.
Bernard Arnoresque.
C'est un peu flou tout ça. Et du coup, là, il marche très bien. Il est sorti dans des salles. Il fait un meilleur ratio nombre de vues sur copie du film que The Revenant avec Leonardo DiCaprio.
Ouais, quand même.
Et ça marche vraiment. Mais du coup, pour qu'il passe dans les petites villes, c'est à nous d'aller voir les cinémas.
D'accord.
Donc,
d'en mettre un peu la pression pour que
voilà, tout
il
à
dépasse.
Fait. Saint-Afrique, Millau, Requista,
Camarès.
Voilà, ouais. Moi j'ai envoyé des mails voilà au cinéma en disant que j'étais OK aussi pour faire un débat après.
Mm-hmm.
Donc c'est à nous de demander au cinéma quoi.
Ouais, parce que ça donne envie hein.
Ouais, carrément, ouais.
Rien que la bande-annonce son déjà, on se marre alors
ouais,
avec les images.
C'est un film qui montre qu'on peut gagner
ouais.
Et ça fait du bien à l'heure de la loi travail, du projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes, de la prolongation de l'état d'urgence, de la condamnation des syndicalistes de Goodyear. Des accords de libre-échange, des fermes-usines, etc., etc. À l'heure où l'oligarchie a pris le contrôle de l'économie, des médias, de la justice, du gouvernement,
ouais.
C'est clair que tant qu'on ira manifester de façon séparée, on perdra. L'heure est à la convergence et heureusement, ça bouge dans ce sens-là en ce moment. Par exemple, il y a une pétition qui a été lancée contre la loi travail, vous savez, la loi El Khomri.
Ouais. Oui, oui, il y a pas mal de gens qui ont envie de manifester dans le coin.
Il y a plus de 850 000 signataires de la pétition déjà.
Quand même. Mm-hmm. Moi j'ai signé. Vous avez signé ?
J'ai signé aussi.
Ouais. C'est bien.
Non, c'est un truc de fou cette loi.
Alors du coup, la grève générale, il y a une manif de prévue sur Saint-Afrique ?
Il y a un appel à la grève générale le 9 mars avec des rassemblements dans tout le pays.
Ah ouais. D'accord.
Ouais. Il y a des cartes en ligne et tout ça. Et puis, l'heure est aussi à la convergence des luttes, parce que là, cette grève générale, au départ, c'est contre la loi travail. Il y a de plus en plus de voix qui s'élèvent, bah, notamment Fakir, leur dernier numéro qui parle du réveil des betteraves.
Génial, j'adore.
Ils essayent de faire un mouvement de convergence de toutes les luttes sociales, écolo et tout. Eux, ils sont plutôt sur la Picardie et sur Paris.
Ouais.
Mais un peu partout, c'est bien d'essayer de rassembler les luttes.
C'est vrai qu'il y a tellement de choses qui bougent en ce moment et de contre-alternatives que... Ouais, c'est le moment de se rassembler pour être plus fort, quoi.
En fait, ça ressemble un peu, cette idée de rassemblement, ça ressemblerait un petit peu au rassemblement du plateau du Larzac, il y a des années en arrière, avec tous les groupes différents sur tout le territoire qui se réunissaient, les artistes, mais aussi bien que les agriculteurs, et ainsi de suite. Donc, en fait, c'est ça, l'objectif.
Oui, en 2003, quand ils avaient fait Un autre monde est possible.
Bien avant.
Ah non, même avant.
Oui,
bien avant. En 2003, ils avaient refait, tu sais, c'est pour ça que je pensais...
Moi, je pensais le premier, celui de
l'origine. Le premier, oui. Par rapport au camp, quoi.
70,
c'est ça.
Ouais, sauf que là, bon, il y a la loi travail qui est quand même, qui rassemble pas mal, mais l'idée, c'est aussi d'arriver à faire converger les autres luttes générales. Du coup, comme je disais, il y a l'aéroport à Notre-Dame-des-Landes, ça a réuni plus de 60 000 personnes ce week-end qui ont manifesté. Donc voilà. Alors, et puis il y a même sur internet maintenant des youtubeurs qui s'engagent et qui font des vidéos aussi où ils appellent les gens à se mobiliser. Et donc notamment avec le hashtag on vaut mieux que ça.
On a perdu Filou.
Et on écoute la vidéo.
Salut à toutes et à tous. Si on est ici plusieurs vidéastes à s'être réunis aujourd'hui, c'est pour vous parler de la nouvelle loi sur le travail que le gouvernement est en train de nous préparer.
Le texte n'est pas définitif, mais en l'état actuel, le projet de loi sur la réforme du travail est loin de faire l'unanimité.
Ce sujet, il peut paraître chiant et technique. Pourtant, à des degrés divers, on est tous concernés. Et ce qui est en train de se passer, c'est super grave.
Ce projet de loi est juste hallucinant.
Alors que la loi nous protège encore un peu, on nous laisse seuls face à nos chefs pour soi-disant négocier nos conditions de travail.
Travailler la nuit, le dimanche, bref, toujours plus. Il permettrait aux entreprises de réduire nos salaires, sans que cela ne soit justifié par de véritables difficultés financières.
Ou tout simplement de nous virer, comme ça, sous prétexte de licenciement économique bidon. C'est un vrai retour au 19e siècle, tu sais, Germinal, tout ça. Salaud !
Mais comment s'étonner de ce genre de décision ? Les gens qui les prennent ne connaissent rien aux réalités du travail. Pour eux, on n'est que des chiffres, des données statistiques. Alors que le travail, c'est notre quotidien, nos réalités, nos vies.
Alors, est-ce qu'on se laisse faire ou est-ce qu'on décide qu'on vaut mieux que ça ?
C'est nous, c'est vous, c'est vos frères, vos sœurs, vos parents, vos potes et tous ceux qui viendront après, parce que ces décisions vont changer nos droits et nos vies pour longtemps.
On a tous fait des boulots de merde. Certains d'entre nous en font encore. Mais ce qu'on veut, c'est pouvoir vivre sans être réduit à cette seule dimension de travailleur-consommateur.
Les politiques ne nous donnent jamais la parole. Aujourd'hui, il est temps de la reprendre. Faisons-nous entendre grâce au hashtag « On vaut mieux que ça ».
Hé hey, copain, c'est quoi ? Ton boulot, y'a personne qui en parlera mieux que toi. Alors va sur le réseau social de ton choix, utilise le tag « On vaut mieux que ça » et raconte-nous la dernière fois qu'au taf, t'as eu l'impression qu'on se foutait de ta gueule.
Raconte-nous la première fois où on t'a demandé un truc impossible ou absurde.
La fois où on t'a refusé un boulot pour des raisons injustes.
Quand ton taf a commencé à bouffer tout le reste.
Quand on t'a demandé de bosser gratos, ou qu'on t'a sucré ta paye ou ta prime.
La fois où t'as cru péter les plombs.
Ou celle où tu t'es retrouvé en danger au travail.
Raconte-nous ce moment où on s'est mis à te parler comme à un gosse.
Celui où ton collègue est devenu un concurrent dans ton esprit et que t'as pas aimé ça. Ou pire, que t'as aimé ça.
Quand tu as culpabilisé de partir du taf à l'heure ou simplement d'être malade.
Quand tu t'es retrouvé tout seul pour faire le boulot de 3 personnes.
Quand ta recherche d'emploi elle est devenue humiliante ou que tu t'es rendu compte que ton CV, bah en fait, il te servait à rien par exemple.
Quand t'as senti que le taf que tu faisais était devenu vide de sens.
Quand tu t'es dit que franchement, il y a des gens qui sont plus à plaindre que toi et du coup, tu t'es laissé faire.
Envoie ton témoignage vidéo, écrit, audio, anonyme ou pas, avec le tag « On vaut mieux que ça ». Nous, on s'occupe de créer une plateforme qui regroupe ces expériences et diffuse cette parole pour la mettre en valeur. On veut mettre à disposition nos compétences pour créer des visuels, monter des vidéos et faire entendre nos voix à tous.
Que tu sois caissière, pion, maçon, cuistot, flic, prof en ZEP, chômeuse de longue durée, livreur de pizza, chauffeur de taxi, artiste en galère ou chercheur précarisé, tu vaux largement mieux que l'avenir qu'on te prépare.
On s'apprête à vivre une bataille, je vous assure que la loi Macron à côté, c'était rien.
On est resté silencieux bien trop longtemps, les amis. Et c'est facile pour eux de gouverner, de nous ignorer, de nous mépriser quand on se fait pas entendre. Donc là maintenant, faut qu'on se bouge. On va leur montrer nos vies et nos rêves. On va leur montrer qu'on n'est pas dupes des conséquences qu'ont sur nos vies à nous, les décisions qu'ils prennent. On va leur montrer qu'on vaut mieux que des petites décisions. On va leur montrer ensemble qu'on vaut mieux que ça.
Rendez-vous donc sur les réseaux sociaux, sur internet avec le hashtag « On vaut mieux que ça » pour faire remonter vos témoignages qui ensuite seront tous diffusés sur une plateforme commune. Le message est passé. On change à présent de sujet pour nous intéresser aux noms d'animaux, à de drôles de noms d'animaux. Vas-y, Chaussette.
Alors, pourquoi est-ce toujours sous la douche que je pense à cette émission ? Bref, face aux éventuels emballements du cœur de nos auditeurs, auditrices, à l'évocation du nom de notre émission, ou d'une partie du moins, et même si, on vous le jure, il n'y a pas de rapport, enfin, on ne pense pas, je me suis interrogée sur cette drôle d'appellation pour le sexe féminin, la chatte. Remarquez, on parle aussi de minou, voire de minette, pussy en anglais. Alors oui, évoquer les organes génitaux, masculins, mais surtout féminins, il paraît que ça a toujours été quelque peu délicat. Ni une ni deux, le langage populaire nous a créé une pléthore de mots de remplacement, certains poétiques ou imagés, d'autres un peu moins, pour faire référence au sexe. Pas évident de comprendre cependant ce que le félin vient faire là-dedans. Et puis, ça peut créer des situations gênantes. Enfin, après, on en rigole bien. Quand de bon matin, ta collègue, tout énervée, rouspète à la pause café sur le maçon qui lui a coincé sa chatte derrière le mur. Moment de flottement dans l'assemblée. Ça y est, les gens ont fait le lien. Ma collègue fait des travaux d'isolation chez elle et son maçon n'est visiblement pas très consciencieux. Ça se détend. I want to break free. Donc, la femelle du chat, nous disions. Mais quel est donc le rapport ? En quoi le sexe féminin évoque-t-il une sémantique féline ? C'est bien dit. J'ai beaucoup travaillé. J'ai beaucoup cherché justement, tombant au début sur ce genre de considération.
En ce qui concerne le chat, la chatte, le minou ou le minet, la traditionnelle image de la femme chat, caressante et amoureuse, semble avoir pu croiser l'ancien français « minon », qui désignait un duvet ou poil doux. Une autre version évoquait également l'homonymie qui existe entre « chat » et « chat » avec un S, au sens du trou de l'aiguille qu'on enfile.
C'est charmant.
Mmh. Oui.
Bon, cela ne me satisfaisait toujours pas vraiment. Alors j'ai creusé un peu plus. Après recherche, il semblerait que ce soit toute la femme en elle-même qui soit associée à l'image du chat. J'apprends que séduction, fécondité, narcissisme seraient des caractéristiques attribuées à la femme et au chat. Et ce, dès l'Égypte ancienne, avec le symbole ru, à l'image d'une pupille de chat, et connecté à la signification de passage, symbolisant une entrée, celle du vagin de la femme, passage de la vie spirituelle à la vie matérielle. Dans la mythologie nordique, Freya, déesse de la jeunesse et de l'amour, dirige un char tiré par plusieurs chats et véhicule une image d'inconstance et d'attitude impudique, traînant la réputation d'avoir couché avec tous les dieux et tous les elfes. Durant le Moyen-Âge, c'est un grand pot pourri, mêlant chattes, femmes et sorcières, diables et démons. Au Japon, à la fin du XIXe siècle, sous couvert de tendances moralistes occidentales sur la sexualité, le culte des symboles masculins fut interdit. Remplacé alors par le fameux manikineko, mais si vous savez ce mignon petit chat en bibelot qui lève la patte, allégorie paraît-il de la prostituée faisant un geste d'appel. Enfin, qui n'a jamais noté que la sexualité des chattes avait quelque chose de remarquable ? Chattes et matous se clamant sans réserve leurs amours à grands coups de miaou, véritable appel à l'amour. Les chats sont aussi libertins, acceptant dans la même journée plusieurs partenaires pour la chatte, voire même mettant au monde des chatons issus de pères différents. On appelle ça la super fécondation. Ça en jette, non ? I want to break free. Bref, voilà où me mènent mes recherches sur le sujet. Nous en savons un peu plus, mais personne n'est vraiment fixé. Je me console de cette énigme non résolue en me disant que tout de même, pour des êtres vivants qui souhaitent bien souvent à tout prix se détacher du règne animalier, nous y allions drôlement fort en termes d'appellation animale de nos congénères, les humains. Et là, stupeur, les premiers termes qui me viennent à l'esprit ne sont pas vraiment flatteurs pour mes compagnes et moi-même. Empreints de relents de soumission, très souvent sexuels, de paternalisme, de caricature et de jugement de la femme. Quelle cougar celle-ci, quelle tigresse !
C'est une vraie jument, une belle pouliche.
Viens là, ma petite chatte, ma petite poule, ma petite caille !
Une vraie truie, je te dis, une grosse cochonne !
Quelle dinde ! Encore une oie blanche, une vraie bécasse !
Jolie comme tout cette petite souris.
C'est une chienne.
Une grosse vache, un thon en somme. Ouais, une morue. Ouch, ça cogne quand même.
Ouais, c'est clair.
Bon, ceci dit, une gazelle, une biche, une lionne, une colombe, c'est plus doux et ça rentre aussi dans ce bestiaire. Mais j'aime bien quand mon compagnon m'appelle ma bibiche dans le fond. Non, il n'est pas fan de Louis de Funès, plutôt de Homer Simpson en fait. Et je me dis,
ma biche,
je me dis qu'on a du stock nous aussi pour désigner nos petits camarades, qu'ils soient de véritables étalons, forts comme des taureaux, mais avec le regard bovin.
Dommage,
ouais.
Ou qu'ils se comportent comme des porcs, voire des blaireaux, avec l'intellect d'une triple buse. Qu'ils se pavanent comme des coqs,
ouais.
Ou que ce soit de véritables ours. Ou bien juste des chauds lapins.
Oh oui.
Bref, ce que je retiens, c'est que nous ne sommes finalement pas si éloignés de nos congénères à poils, à plumes et à palmes, et que malgré son ton très familier, l'expression « avoir de la chatte », eh bien, c'est avoir de la chance.
Yes.
C'est l'introduction. D'abord il y a Hector le castor et Édouard le canard et José le sanglier et Charlotte la marmotte et Mireille l'abeille et Léon le frelon et Fédor le porc et Tonio le blaireau. Ils se réunissent et décident d'aller chercher des amis pour se rendre à leur rendez-vous. Ils rencontrent Yvan le hareng et Edgar le cougar et Fidèle la sauterelle et Firmin le lémurien et Ginette la mouette et Manon l'espagnol. Vadon et Yvon le saumon et Mario le bulot. Et en chemin ils rencontrent aussi plein d'autres amis, Lulu le zébu et Elire le tapir et Dédé la galinette cendrée et Salomon le cochon et Jean-Marc la carpe et Théo le cabillaud et Pascal le chacal et Sophie le canari. Et avec tous ses amis, ils rencontrent un autre groupe d'animaux qui se rendent au même endroit. Mais quel hasard! Il y a Jean-Pascal l'orignal et Loïc le lombric et Nicolas le koala et Chloé l'araignée et Annie le ouistiti et Hector l'alligator et Hubert le coquin et Raoul le pitbull. Mais il y a aussi Armand l'éléphant et Bernard le balbuzard et Géraldine le cygne et Damien le requin et Arnaud le chameau et Cécile le mandril et Eric le porc épique et Eric le nazique.
Enfin zit, est-ce quoi ce bouffon là, il a le même prénom que moi là.
Mais on s'en fout, c'est une chanson.
Ah non, bah je suis pas d'accord, hein, c'est qu'il y a embrouille là, Grenasse et toi, c'est quoi là, que j'ai le même prénom.
Comment ça, Grenasse, tu te fous de mon espèce là, c'est ça?
Ouais, les Nastasiques, Nazik, t'es le Nazik, t'es Grenasse, t'es le Nazik de...
Bon, c'est bon, vos gueules les animaux maintenant, hein. Bon, on en était où là? Ah oui. Et il y a Louis le grizzly et Augustin le lamantin et Sylvie le coati et Virginie le diable tasmanie et Herbert le dromadaire et Aurélie l'ocapi et Bertrand le footbassant et Laurette la vachette. Ils ont aussi avec eux des animaux moins sympathiques qui ne mériteraient pas d'exister si le monde était parfait. Il y a Edith le trilobite et Noémie la bactérie et Hervé le bousier et Agathe la blatte et Fernande le scolopendre et Chantal la migale et Annabelle le brotel et le peine la hyène.
La 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 la.
La hyène, ouais, ça me plaît bien, la hyène.
Merci beaucoup, Chaussette. On vient d'écouter les Fatal Picard, les animaux de la ferme. Et tout de suite, notre séquence Belle et Jolie.
Ah oui, Belle et Jolie.
Oh, hein. Surtout Belle.
Très jolie. Très jolie.
Et jolie.
Alors,
aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire du roi des baleines. J'ai nommé le soutien-gorge.
Non, c'était un cachalot.
Alors, tout commence en moins 400 avant Jésus-Christ, hein, en Grèce antique. J'y arrive. À cette époque, les femmes ne portent pas encore ce que l'on appelle soutien-gorge. Ce sont plutôt des brassières faites avec de larges bandes de tissu qu'on enroule autour du buste. La mode est aux petits seins, j'aurais fait fureur à l'époque, voire au look androgyne. Certaines jeunes filles n'hésitent pas à comprimer leur poitrine dans des lanières de cuir très serrées pour stopper sa croissance.
Mais j'en connais quelques-unes qui ne respireraient pas beaucoup. Hein.
Vous savez, un peu le même principe que les Chinoises qui bandaient leurs pieds pour qu'ils soient tout petits. Certains médecins iront jusqu'à proposer des traitements pour empêcher le développement des seins. Quelques siècles plus tard, les poitrines se libèrent. La grande mode du Moyen-Âge, c'est le corset lacé. Il est lacé dans le dos par-dessus un corsage qu'on appelle gourgandine.
C'est ça.
Tout cet attirail permet de remonter les seins au maximum. On laisse pratiquement déborder les tétons.
C'est horrible.
C'en est au point qu'en 1370, on publie un édit contre cet abus de charme. Cet édit stipule qu'aucune femme ne se soutienne la poitrine, que ce soit par disposition de la chemise ou par robe lacée. Et puis arrive le véritable corset qui va emprisonner le corps et la liberté des femmes pendant plus de 500 ans. Le principe, c'est que le corset sculpte le buste. Pour cela, il serre la taille au maximum pour faire ressortir les hanches et la poitrine. En gros, moins on respire, plus on est joli.
Et puis plus on se tait.
Oui, c'est sûr.
Les premiers corsets sont en tissu renforcé de pièces en bois. Ensuite, ce sont carrément des tiges de métal. On peut parler de véritable harnachement. Ils sont allégés petit à petit jusqu'à l'apparition des baleines au XVIIe siècle. Ce que certains considèrent comme un symbole de la sensualité féminine va faire beaucoup de mal. De nombreux rapports médicaux décrivent les escarres, les fausses couches, les déformations de la cage thoracique, de la colonne vertébrale et les autres joyeusetés dues au corset. Et ce n'est pas tout. Car en opprimant le corps des femmes, on restreint aussi leur liberté de mouvement et leur place dans la société. En 1762, dans Émile ou de l'éducation, Jean-Jacques Rousseau condamne l'usage de ces corps de baleine qui coupent la femme en deux comme une guêpe. Au début du 19e siècle, c'est l'apogée du corset. Il descend très bas sur les hanches, comporte des bretelles et englobe les seins. Les canons de l'époque se doivent d'être douces, pâles et mélancoliques. Elles doivent marcher à petits pas et parler très peu.
Ah bah tu m'étonnes, un peu comme Mylène Farmer. Hein.
En 1889, Herminie Cadol, une Française, propose un corset plus confortable. Il est présenté à l'Exposition universelle de Paris. Il est en deux parties. La première serre la taille et l'autre rehausse la poitrine. C'est l'ancêtre du soutien-gorge. Mais cette trouvaille a malheureusement fait un flop car l'idée a été jugée trop libertaire. C'est en 1904 que les mots « gorgerette » et « maintien-gorge » apparaissent dans le dictionnaire Larousse. La Première Guerre mondiale chasse les corsets. Petit à petit, les soutiens-gorges se popularisent. Ils ont d'abord une forme de bandeau, car la mode est au petit sein. C'est une Américaine, Mary Phelps Jacob, qui crée le premier modèle de soutien-gorge avec deux bonnets en 1914. Les bonnets sont en forme de triangle et sont reliés ensemble. Les soutiens-gorges vont évoluer tranquillement durant les décennies suivantes. Ça va aller du soutif pointu des pin-up des 50s au petit bonnet sage des années 60.
Madonna.
Puis, vers le milieu des années 60, la compagnie canadienne Canadel met en marché des soutiens-gorges push-up. Ces soutiens-gorges remontent la poitrine des femmes et la mettent bien en valeur. Et puis, en 1970, c'est la révolution des nénés.
Ouais.
Les féministes brûlent des montagnes de soutifs sur la place publique pour symboliser leur liberté sexuelle. Le soutien-gorge doit être fonctionnel, confortable et éloigné de toute connotation sexy.
100% coton, quoi. C'est
ça. De nombreuses femmes préfèrent carrément s'en débarrasser et ne rien porter sous leurs vêtements.
Oui, parce que ça gratte.
Libérée, délivrée.
Alors aujourd'hui, où en est-on ? On trouve des soutiens-gorges de toutes les formes et de toutes les matières. Coque en mousse, push-up, bandeau armaturé, triangle, soie, dentelle. Moi, ce qui me choque le plus, c'est le rembourrage. C'est fou de voir le nombre de soutifs rembourrés que vous avez dans un magasin de lingerie. Et quand je dis rembourré, c'est pas qu'un peu. Parfois, c'est la moitié du bonnet qui est rempli d'un coussinet. Alors vraiment, faut m'expliquer. C'est quoi le but ? Faire croire qu'on a les seins deux fois plus gros ? Mais pourquoi ?
Les hommes.
Ah. Est-ce que vous n'allez pas me dire que c'est pour soi qu'on fait ça ?
Non.
Je vois qu'une explication, séduire. Encore et toujours, la femme ramenée à sa fonction d'outil de séduction. Avec son corps, bien sûr, pas sa tête. Quand j'étais gamine, je me souviens de la première chose que faisait ma mère le soir en rentrant du travail. Elle balançait son soutif. Et en même temps, elle poussait un grand ouf de soulagement.
Oh oui.
Comme si elle en avait bavé toute la journée et qu'elle pouvait enfin se libérer.
Libérée, délivrée.
Quand j'étais ado, j'étais trop fière de pouvoir porter mes premiers soutiens-gorge. J'avais l'impression d'être une vraie femme. Et puis, au bout de quelques années, ça a commencé à être vachement moins sympa. Et comme ma mère le faisait, le soir chez moi, à peine rentrée, je balançais mon soutif.
Ben ouais.
Alors j'ai commencé à me demander pourquoi j'en mettais. Ben oui, c'est vrai après tout. Pourquoi ? J'ai une petite poitrine, j'ai pas l'impression que mes seins risquent de me faire mal au dos. Non, c'était plutôt pour gonfler un peu mon t-shirt, pour avoir l'air d'avoir plus que ce que j'ai. Parce que la mode de nos jours, c'est les gros seins.
Ah bon, tiens, on a la mode.
Ça ne m'a pas plu de me rendre compte de ça. J'ai décidé que je m'en foutais et que j'allais arrêter de porter un soutif. C'est pas facile au début, parce qu'on a l'impression que tout le monde vous regarde, que tout le monde s'en rend compte.
Oh, mais il y a des gens qui le font. Hein.
Ah oui, mais vraiment ? Surtout quand il fait froid. Hein, les filles ?
Ouais, normal.
Du coup, je passais mon temps à croiser mes bras devant, mine de rien. Mais malgré ce malaise, c'était trop bien. Quelle libération.
Libération, des tétons.
Ouais, c'est clair.
J'avais l'impression de mieux respirer.
Libérée.
Je me sentais beaucoup plus libre dans mon corps.
Libérée, délivrée.
Ça fait 5 ans que je ne porte plus de soutif. Jamais. Et je ne suis pas la seule. De plus en plus de jeunes femmes font ce choix.
Oui, pas que des jeunes.
Et pas que des jeunes, de plus en plus de femmes.
Et pas que des jeunes.
Des collectifs sont nés en Scandinavie, aux États-Unis et même en France. Elles s'appellent les tumultueuses chez nous. Pour défendre la libération du sein. En plus, la science nous donne raison. Une étude a été menée sur 130 femmes âgées de 18 à 35 ans pendant 15 ans. Cette étude montre que ne pas porter de soutien-gorge permet à la poitrine de se redresser et au mamelon de remonter. De 7 mm par rapport à l'épaule, pour être exact.
Waouh !
L'étude montre aussi que les vergetures ont tendance à s'estomper.
Tiens non.
Et même que certaines femmes constataient une amélioration de leur posture et une diminution du mal de dos.
Ça m'étonne pas.
L'explication, c'est que les soutiens-gorge, pour maintenir la poitrine, compressent les ganglions des canaux lymphatiques. Ils agissent comme un garrot et empêchent la bonne circulation. Le pire, ce sont les push-up. Alors qu'en laissant les seins libres, les muscles et les ligaments sont obligés de travailler pour tenir la poitrine et éviter l'affaissement des tissus. Alors, que faire ? Je n'ai pas la prétention de vous le dire. Ça vous regarde, vous et vos tétons. Mais en tout cas maintenant, vous en savez un peu plus pour faire votre choix en toute conscience.
L'hiver s'installe doucement dans la nuit. La neige est reine à son tour. Un royaume de solitude m'a placé là pour toujours. Le vent qui hurle en moi ne pense plus à demain. Il est bien trop fort, j'ai lutté en vain. Cache tes pouvoirs, n'en parle pas. Fais attention, le secret survivra. Pas d'état d'âme, pas de tourment.
Vous avez bien sûr reconnu le titre entêtant de La Reine des Neiges de Disney, Libérée, délivrée.
Délivrée.
Je suis désolée de vous l'avoir mise dans la tête.
Toute la soirée, toute la nuit. Là,
ouais, moi. C'est ça. Ouais.
Moi, je vais merci. Rêver, hein.
J'arrache mon soutien-gorge hein, sur un nuage de neige.
Merci, Trucmuche et Pouzix.
Ouais.
Hein.
Ouais. Moi, j'ai une question à te poser à propos du soutien-gorge. Enfin, ce n'est pas une question à te poser, c'est surtout une observation. Je trouve ça assez intéressant que la première fois que les femmes balancent leur soutif, c'est quand les hommes sont à la guerre. C'est quand même vachement intéressant ce truc-là, quoi. Il y a plus de bonhommes dans le coin. Les nanas sont là pour faire fonctionner le pays. Et ben, première chose qu'elles font, c'est qu'elles enlèvent le soutif. C'est génial, quand même.
Elles se libèrent.
Flop, flop, flop.
Très bien. Et bien.
Le moment de flottement, c'est les soutifs. On vient de les dégrafer, donc.
Nous arrivons à la fin de cette émission.
Oh.
Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci aux techniciens.
Merci Phil.
Merci
Phil.
Je vous rappelle
merci
que l'émission...
Charlie.
Merci à vous aussi les filles. Je vous rappelle que l'émission est diffusée le premier vendredi de chaque mois à 22h et ensuite rediffusée le mardi suivant à 11h et le jeudi d'après à 16h.
C'est ça.
Vous pouvez aussi la retrouver en podcast sur le site radiosaintafrique.com. Et nous vous donnons rendez-vous le vendredi 1er avril.
Chouette, c'est pas une blague.
À 22h à l'antenne, mais surtout dès le 9 mars dans la rue.
Oui,
ouais.
Révolution.
Oui, tout
Révolution.
À fait.
Révolution, grève générale.
Bonne soirée.
À bientôt.
Ciao.
Miaou. 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 Oh, j'ai trouvé un homme.
Chalor.
Miaou.
Le bar à...
Le bar à quoi ?
Le bar à chatte.
Le talk chat de Radio Saint-Afrique.
C'est tout à fait chat.
Le bar à chat.
Nouvelle émission féline de Radio Saint-Afrique.
Tcha-tcha-tcha.
Le bar à chatte. L'émission chat, heureuse,
de Radio Saint-Afrique.